Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Les grands-parents sont aujourd'hui tiraillés entre leur rôle de nounou et celui d'éducateur. Ils ont transmis la foi à leurs enfants, mais ceux-ci ne la vivent pas forcément. Leurs petits-enfants peuvent être aussi loin de la foi. Quelle attitude adopter? Comment garder l'espérance?
Vivante Église, Isabelle Duché.
Aujourd'hui, nous avons besoin d'une nouvelle alliance entre les jeunes et les personnes âgées, de partager le trésor commun de la vie, de rêver ensemble, de surmonter les conflits entre les générations afin de préparer l'avenir de tous. C'est ce qu'a invité le pape François lors de la journée des grands-parents en 2021. Mais nous le savons, cette nouvelle alliance ne se fait pas toute seule. Comment la construire? Comment transmettre ce qu'on a soi-même reçu? Réponse avec les trois invités de Vivante Église. Le père Michel Martin-Prével, bonjour père.
Bonjour.
Jean-Claude et Martine Michel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mariés, avez enfants et petits-enfants et vous appartenez tous les trois à la communauté des Béatitudes. Merci pour votre présence aujourd'hui.
Avec joie.
Père Michel Martin-Prével, vous animez des retraites pour les grands-parents. Dans quel état d'esprit sont-ils? Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui?
Alors c'est d'abord assez récent, mais c'est une prise de conscience qui est venue progressivement parce qu'en entendant beaucoup de ce qui se passe dans les familles, j'ai réalisé la place qui devenait très importante pour les grands-parents parce qu'il ne suffit pas simplement d'être des nounous, d'aller garder les enfants parce qu'il faut boucher les trous, mais parce que les parents sont assez occupés, ils travaillent. Il y a des parents aussi qui sont maintenant souvent séparés. Il y a des veuvages, il y a tout ça qui fait que les grands-parents, souvent, parce qu'ils sont encore en bon état, vous savez, aujourd'hui on vit plus vieux, on peut être libéré d'activités professionnelles, on a du temps pour ça. Donc tout ça, c'est une espèce de boulevard qui s'ouvre pour les grands-parents. On s'aperçoit qu'ils ont une place qui prend beaucoup d'importance dans les familles. Et particulièrement parce que les parents eux-mêmes étant, on est aujourd'hui surbookés, et parce qu'ils sont surbookés, on retrouve la famille aux trois niveaux, comme c'était dans les familles, vous savez, d'autrefois, traditionnelles, où les grands-parents étaient toujours,
vivaient chez leurs enfants.
Et parce que ça a disparu. Et alors on retrouve cette famille où les trois générations se retrouvent beaucoup plus souvent. Et puis il y a les RTT, il y a tous ces moments aussi de loisirs, volontiers, on aime bien aller encore chez les grands-parents, surtout s'ils ont une grande maison à la campagne, alors ça c'est formidable, etc. Donc c'est ce changement sociologique qui montre que de nouveau les grands-parents doivent prendre leur place. Alors la question c'est comment, il y a à la fois de la mesure à y mettre, c'est pas eux qui éduquent les enfants et pourtant on leur donne trop souvent les enfants et ils se trouvent en situation d'avoir à les éduquer.
Et comment donc ça les met dans une situation de souffrance peut-être?
Alors il y a des souffrances par ailleurs parce que de fait il y a des enfants qui il y a d'abord la situation matrimoniale de leurs enfants qui fait qu'il peut y avoir, je répète, des divorces, des choses qui font, on voit bien que c'est des difficultés au niveau éducatif. Les petits-enfants n'ont pas toujours le papa qui est là, la maman, c'est ce qui veut dire qu'on recherche des substituts paternels, maternels, et donc ça fonctionne aussi. Et il y a aussi les distances qui se prennent, il y a des enfants qu'on ne voit plus, il y a ceux qui ont épousé une Australienne et on ne les voit plus qu'une fois par an et encore, etc. Donc il y a aussi des distances, des différences, quand on a une fille qui a épousé un musulman, quand on a un enfant qui finalement découvre qu'il est homosexuel, c'est tout ça aussi qui crée des souffrances chez les grands-parents qui n'avaient pas ça du tout dans leurs origines. On va
donc
dire.
Avec voilà. une situation qui est relativement nouvelle et c'est ce
et
dont
je crois
vous partagez les grands-parents.
Nouveau,
oui. Oui. Jean-Claude et Martine Michel, vous êtes parents et grands-parents de 6 petits-enfants. Quelles difficultés rencontrez-vous dans vos relations avec vos descendants?
Alors, Jean-Claude. Je commence, oui. Donc, pour nous, le regard qu'on porte sur le sujet est beaucoup fonction de la proximité ou de l'éloignement des enfants.
Géographique, vous voulez dire?
Parce que bon, l'enfant grandit, fait ses choix, et puis pas toujours ses propres choix. Il y a des situations professionnelles qui les conduisent à droite ou à gauche et qui créent des éloignements. Donc sur 3 enfants, sur nos 3 garçons, il y en a un à Lille, un à Berlin, l'autre à Toulouse. Donc, notre relation est complètement différente. Les 2 aînés ont des enfants, pas le 3e. Celui qui est à Lille, on le voit moins souvent. Le téléphone marche davantage. Et celui qui est à Toulouse, on a un lien beaucoup plus direct et plus fréquent avec ses enfants. Donc aussi une présence différente.
Et est-ce que c'est difficile justement de maintenir le même lien avec des enfants qui sont plus loin que ceux qui sont à Toulouse par exemple ?
Je dirais oui et non. On regrette de voir peu nos petits-enfants qui sont à Lille. Enfin, on les voit quand même régulièrement. Mais je pense que le lien, c'est quand même un lien de qualité. Je dirais la qualité se substitue peut-être à la quantité. Et donc, on a de très bons échanges. Quand on se retrouve, on est très heureux de se retrouver. Ils sont aussi plus grands que ceux de Toulouse. Donc, ceux de Toulouse, on fait un peu les nounous, comme vous le disiez. On les garde, surtout quand il faut être prêt, quand il y a des grèves, par exemple.
Oui, c'est ça.
Du jour au lendemain, les parents nous appellent en disant « Oh là, demain, il n'y a pas d'école. » Voilà, on est disponible. Et c'est vrai que la relation qui se noue avec les petits est un peu différente, oui, elle est différente.
Elle est différente, oui. Et quelle joie vous retirez de tous ces liens, même s'ils sont parfois au téléphone et parfois un peu moins souvent que ce que vous espéreriez ?
Alors la joie, c'est vraiment de vivre, je dirais, c'est peut-être un terme un peu fort, mais je le ressens comme ça, une communion familiale. Donc les liens que l'on tisse sont pas seulement des liens humains, je dirais de grands-parents à enfants, à petits-enfants, mais ce sont des liens qui soudent la famille et qui nous amènent au-delà peut-être de la dimension humaine que l'on peut vivre, même si les uns sont peu pratiquants, les autres davantage. Voilà, c'est cette communion familiale dans une histoire commune aussi, une histoire qui remonte à loin et puis qui nous projette vers l'avenir qui est, quand on est croyant, elle nous projette vers un avenir éternel, je dirais. Donc, ouais. Donc ça, c'est notre joie, c'est une grande joie. La joie aussi, c'est de tisser un lien particulier avec chacun, d'être en lien avec chacun, avec ce qu'il est, avec ce qu'il porte, avec ses difficultés, avec les petits. Ça n'a pas été toujours facile. Ils passent par des étapes de croissance qui sont parfois pénibles et auxquelles les grands-parents apportent leur contribution, pas au même niveau que les parents, justement. C'est peut-être parfois un peu difficile. Mm-hmm. Pas se substituer aux parents, on n'a pas à gérer des choses qui reviennent aux parents. Mais chacun apporte sa contribution et construit comme ça le lien familial.
Oui. Vous parliez, vous avez évoqué cette notion de transmettre l'histoire de la famille. Père Michel, vous êtes aussi grand-père, puisque
oui,
vous avez été marié
prêtre,
avant d'être prêtre.
Je suis aussi père et grand-père, oui. Effectivement, comme ceux qu'on vient d'entendre. Moi aussi, j'ai des enfants dans des lieux très différents. Moi, c'est Toulouse, Angers... Et Cherbourg, voilà, ça fait aussi de la distance. Et effectivement, j'ai ces différences, effectivement, de relations selon qu'ils sont plus ou moins près, de fait. Alors, vous demandiez comment...
Quelles étaient les joies et les difficultés, puis surtout, comment vous transmettez l'histoire de la famille ?
Alors, moi, je fais attention à ça. Je fais attention notamment à la question des photos. Autant les jeunes ont des photos que dans leur smartphone. Et moi, je vois que j'amène des albums de photos avec des vieilles photos, vous savez, un peu plus comme autrefois.
Un peu jaunis.
Les enfants, c'est très vite en grandissant, ils s'intéressent à ça. Et je vois que ça, c'est ça qui ouvre à un passé qu'ils ont besoin de découvrir. Et les petits-enfants sont plus demandeurs de ça que les enfants eux-mêmes.
Oui, voilà. Parce qu'ils ont vécu aussi les événements.
Voilà.
Donc
et puis l'autre aspect, je trouve, c'est créer des rites familiaux en me disant que ce n'est pas forcément ceux que j'ai vécu moi qui doivent absolument faire. Je ne les impose rien, mais je vois bien qu'ils ont besoin de rites. Voilà. Alors c'est comment on fait à Noël, comment on fait pour les cadeaux. On ne fait pas exactement comme on faisait chez moi, mais on fait différemment. Et donc c'est tous ces éléments-là qui créent des rites et des habitudes. Et puis alors moi je trouve qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui est formidable, c'est le WhatsApp. Alors le WhatsApp pour les familles, c'est vraiment un moyen extraordinaire. Il y en a d'autres, il y a Famille Léo, les petites revues là, qui se font aussi de façon numérique. Et ça, je crois que ça crée de la... Enfin, ça permet aux grands-parents de parler de ce qu'ils sont, et donc ça fait référence à ce qu'ils ont été. Puisque forcément, on est habité, nous, très vite, par un passé qui remonte à, vous savez, 1968 ou la guerre, des choses comme ça. C'est, pour eux, c'est vraiment dans un livre d'histoire, pas
oui,
plus.
Oui, c'est ça. Ouais.
Alors, il y a cet accrochage à la valeur du temps. Et je crois que philosophiquement, c'est important d'être projeté dans un avenir parce qu'on sait aussi d'où on vient. On dit ça couramment, on ne sait pas où on va si on ne sait pas d'où on vient. Et donc, la famille, c'est le dernier lieu où on peut avoir ce contact avec du passé et comprendre mieux un avenir. Voilà.
Jean-Claude, dans cette transmission de l'histoire de la famille, comment vous positionnez-vous en tant que grand-parent ?
Alors, moi, je suis attentif dans l'expectative aussi, hein, dans l'attention à ce que les parents eux-mêmes veulent transmettre à leurs enfants, nos petits-enfants. Mais je remarque, par exemple, que un de nos fils est très, très stimulant, plus que les autres, en tout cas, pour dire, mais va voir papy, regarde les photos, il va te raconter. Donc, voilà.
Est-ce que vous faites volontiers ?
Volontiers, c'est je saisis les occasions, passer dans mon bureau, voir telle photo et qui sait, et j'en profite pour raconter une histoire, créer le lien. Voilà, mais donc ce sont des situations voilà, toujours particulières, très spontanées. Voilà, maintenant, on n'a pas un programme de transmission de l'histoire familiale. Voilà, on vit
oui,
les choses
comme
elles surgissent, elles surgissent dans beaucoup de spontanéité. Voilà.
Vous avez évoqué, Martine, cette difficulté de trouver le juste équilibre entre garder les enfants. C'est vrai que parfois, il y a un simple dépannage quand voilà, le petit est malade et qu'on ne peut pas le laisser à la crèche. Il y a aussi ces longues gardes pendant les vacances, vous le disiez, Père Michel, avec ces maisons qui sont ouvertes et qui attirent enfants et petits-enfants. Et c'est vrai que les grands-parents peuvent se sentir tiraillés entre ce rôle de nounou et celui d'éducateur. Quelle juste posture leur conseillez-vous d'adopter ?
Je pense qu'on leur explique que nous-mêmes, on a des activités, qu'on a une vie. On a une vie. À la communauté, on a une vie qui est quand même bien remplie avec des activités, différents types d'activités, des travaux, des choses qu'on a à accomplir. Et donc, des services, oui, des services à rendre. Et donc, moi, ma posture, c'est de dire, s'il y a une urgence, je laisse tout tomber et vous pouvez compter sur moi. Donc, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Mais sachez que j'ai ça comme activité. Et je vois que ça s'ajuste spontanément. Hein. Vraiment, que s'ils m'appellent pour des urgences, je suis là. Et puis, il y a aussi les temps où on prévoit de prendre les enfants. Voilà.
Voilà, mais donc, ça, c'est anticipé.
Ça, c'est anticipé. Voilà. C'est anticipé, organisé. Mais on sait que la vie est faite d'imprévus. Donc, il faut être disponible aussi pour les imprévus. Et du coup, les choses s'ajustent. S'ajustent. Voilà. Ça se passe bien.
Ouais. Mmh. Je dirais deux mots. Il faut, effectivement, il y a disponibilité. Ça, c'est très important. Dans un esprit de service, parce que dans le fond, on rend service aux enfants quand on les dépanne en allant chercher les petits-enfants à l'école, en leur préparant un repas parce que les parents travaillent, etc. Mais surtout, il faut aussi s'adapter. Faut s'adapter à... Enfin, pour ça, il faut le découvrir, il faut y être sensible au projet lui-même, au projet éducatif des parents, et le respecter. Pas imposer forcément nos points de vue. Enfin, on n'a pas forcément non plus beaucoup de temps. Hein. On ne vit pas tous les jours avec les petits-enfants, 24 heures sur 24.
Oui, mais pendant les vacances, par exemple, si vos enfants vous confient leurs propres enfants, vous dites qu'il faut respecter le projet éducatif. Mais parfois, quand vous avez aussi les cousins, il faut faire l'unité, il faut que tout ce petit monde avance ensemble.
Alors là, nos méthodes prennent le dessus. Ça,
ah,
c'est sûr.
Vos méthodes prennent le dessus. D'accord.
Non, mais enfin, je dis ça en plaisantant. Mais il faut concilier les deux.
Et
hein.
Oui.
On a nos convictions, notre façon de construire une relation qui n'est pas tout à fait la même que celle de nos enfants avec leurs enfants. Mais enfin, voilà, ce sont des équilibres qui ne sont pas forcément faciles à trouver. Hein. Mais je crois qu'il faut être animé du souci de l'attention à l'autre, à cette personne qu'est l'enfant, avec son besoin. Et puis, on porte les choses comme nous sommes. On réagit aussi comme nous sommes, avec notre histoire, notre propre éducation. On ne peut pas effacer ça.
Eh oui, Père Michel, vous voulez...
Moi, j'ajouterais qu'il y a une clé qui est très importante, c'est de rester en bon terme, c'est-à-dire d'avoir du dialogue, parce que c'est comme ça qu'on comprend mieux les intentions des uns et des autres. S'il peut y avoir des différences importantes entre les générations, comme le montre notre société aujourd'hui, c'est ce dialogue qui permet de mieux comprendre que l'autre n'a pas les mêmes intentions, qu'effectivement, il ne fonctionne pas avec les mêmes codes, quoi. Et on remet les codes à jour parce que, justement, on sait quelle est l'intention de l'autre. Sinon, on a de l'utilitarisme qui, tout d'un coup, se glisse là-dedans. Moi, je vois quand même que beaucoup de jeunes parents utilisent leurs propres parents parce que, de fait, c'est la garderie. En plus, c'est gratos, etc. Vous voyez, ça peut être utilitariste, mais ça peut être aussi parce que dans l'autre sens, on confie trop les petits-enfants aux grands-parents parce que eux, ben, c'est bien, ils sont bien équilibrés, ils savent éduquer. Nous, on ne sait pas, on est trop compliqué, on a du mal avec ça. Et ça serait plutôt de la démission. Donc, je crois que la difficulté des grands-parents, c'est de mettre le curseur là où il faut. C'est être, comme disait Jean-Claude, très adapté pour pouvoir effectivement ne jamais dire « Ah bon non, je ne peux pas être dans une attitude de rejet ». Ça, c'est très mal perçu, d'abord par les petits-enfants eux-mêmes, mais en même temps, être ajusté parce que ce n'est pas non plus être utilisé. On a les grands-parents aujourd'hui, ils ont forcément leur vie, ils font plein de choses. Ils ont des clubs de ceci, des rencontres.
Et des engagements aussi.
Des engagements, quelquefois ça peut être encore professionnel pour les jeunes grands-parents. Et donc, on se respecte dans la mesure où on sait quelles sont les intentions des uns et des autres. C'est pour ça que la clé là-dedans, c'est se parler souvent.
Oui, c'est ça. Voilà. Parce que c'est vrai que pour rebondir, j'ai cette citation de Yves Boutonnat, qui est l'ancien président de l'école des grands-parents européens. Et il dit « Les grands-parents souffrent d'être traités surtout comme des prestataires de services et parfois d'un chantage affectif pratiqué par leurs enfants. » Donc il faut trouver justement ce juste équilibre, comme vous disiez, Martine, pour rendre service dans l'urgence, être disponible, mais avec cette limite aussi.
Voilà. Oui, moi je voudrais appuyer ce que disait Michel, j'avais ça sur le bout de la langue, c'est que le maître mot, c'est dialogue, c'est d'être vraiment en dialogue avec les enfants et à l'écoute. Je crois que ça, c'est vraiment très très important et c'est ça qui permet que chacun trouve sa juste place. Dans le fond, il faut que chacun trouve sa juste place, les parents comme parents, les grands-parents comme grands-parents, et puis d'être à l'écoute aussi des petits-enfants, bien sûr. Et donc, il faut être très attentif à ça, peut-être développer ce dialogue, cette écoute mutuelle.
Et dans ce souci de trouver sa juste place, comment pouvez-vous dire, puisque Père Michel, vous disiez, parfois nos enfants veulent se sentent un peu impuissants dans leur éducation et veulent finalement la confier aux grands-parents. Qu'est-ce qu'il faut dire pour que justement il n'y a pas ce glissement?
Alors là, il y a un point qui est très important, c'est de savoir, on ne le sait peut-être pas toujours, que ce sont les parents qui sont responsables de leurs enfants, ça ne peut pas être les grands-parents. On le voit justement pour des questions d'idéologie culturelle ou spirituelle. On ne peut pas imprimer au petit enfant quelque chose contre la volonté de ses parents. C'est d'ailleurs le droit civil qui impose ça. C'est-à-dire que c'est par subsidiarité que les grands-parents peuvent avoir une tâche éducative, avoir à transmettre quoi que ce soit, parce que ce n'est jamais qu'en subsidiarité. À subsidiarité, c'est-à-dire assis en dessous. Donc toujours avoir ce souci que ce sont les parents qui doivent quand même être, comme on dit, d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, ça va faire des problèmes, certainement. Dans le temps, ça se passe mal après si des grands-parents imposent certains sujets, certains comportements, etc.
Certaines
si les parents ne sont pas d'accord, ils peuvent dans un premier temps laisser faire et après le regretter. Et voir que l'enfant a grandi comme ci, comme ça, et se reporter contre les grands-parents en les accusant de... Et ça, ça devient grave parce que c'est toujours dans une subsidiarité, dans un grand respect de cette autorité parentale qui ne leur appartient pas. On voit par exemple au sujet des divorces, des parents qui interviennent trop dans le sujet de la séparation de leurs enfants, et là il faut laisser faire le droit, et pas y mettre tous nos aspects à nous, de je veux ceci, je veux pas ceci. Les petits-enfants ne nous appartiennent pas. Attention, ils ne nous appartiennent pas.
Le dialogue a des limites et en tout cas, voilà, il faut que chacun garde sa place. Je vous propose qu'on marque déjà une pause musicale et nous allons écouter Le sens de la famille, interprété par Grand Corps Malade et Leïla Bekti.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui ne me fasse plus de peine qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris. Que mes 20 ans seraient cruels, que mon avenir s'annonce terne. Le drame, ça se partage, mais ça n'apaise pas l'esprit. Ils m'ont transmis tout ce que j'aimerais transmettre à mon tour. C'est grâce à eux, si je suis en paix, que je pars pas en vrille. Leur humanité sans trompette, leur bienveillance sans détour. Ce que je leur dois, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
Évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours. On te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement. Tu savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Je trouve pas de mots assez forts, c'est tellement, tellement.
Et évidemment, quand t'es daron, toutes les cartes sont redistribuées. Ils sont dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sang chaque seconde. Je n'ai plus qu'eux comme certitude, il va falloir m'habituer. J'ai découvert les liens visibles et les plus solides du monde.
Les enfants, c'est des galères qu'on pouvait même pas concevoir.
Ils nous rendent complètement ouf, mais en un sourire, on vacille.
T'as qu'une envie, c'est qu'ils s'endorment. Et qu'ils dorment, tu veux les voir?
Eh ouais, on est devenus ceux qu'on chambrait. Je crois qu'on a le sens de la famille. Et le sens de la famille, c'est aussi le sens de l'amitié. Je peux te présenter des frères et sœurs qui n'ont pas le même sang. Frères d'espoir, sœurs de cœur, frères de galère ou de quartier. Faire des projets d'adultes dans des cerveaux d'adolescents.
La famille, c'est aussi ceux qui sont devenus essentiels. Ceux qui te connaissent, te révèlent, te soutiennent et te protègent. Ceux qui te parlent la bouche fermée, parce que le cœur s'en mêle. Si tu veux signer avec moi, faut signer avec tout le cortège.
Porte-toi bien, ma chérie.
À bientôt, je t'embrasse.
Ça me rappelle, s'il te plaît.
Bonjour, parents. Merci pour le cadeau.
Tu vas manger, vas-y, viens, je t'attends.
Salut, on a voiture.
On arrive. Bisous.
Je suis trop heureuse pour toi, ma sœur.
C'est toi qui m'emmène au foot, mercredi.
Vite, s'il te plaît, j'ai trop envie de voir le dernier épisode.
Ouais, frère, rappelle-moi, je crois que j'ai trouvé une bonne idée pour ça.
Où passe, mon rêve?
D'abord, on va à la séance de 19h30, et puis après, on mange.
Ma sœur, t'es où?
Papa, on mange devant la télé ce soir.
Présence.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Nous écoutions Le sens de la famille avec Grand Corps Malade et Leïla Bekti. Nous sommes en compagnie du père Michel Martin Prével, Jean-Claude et Martine Michel, tous trois membres de la communauté des Béatitudes à Blagnac. Jean-Claude Michel, vous vouliez compléter ce que nous disions avant la pause musicale dans cet équilibre à trouver entre l'éducation qui est donnée par les parents et puis le rôle des grands-parents, qu'est-ce qui peut s'ajuster?
Donc il me paraît clair que quand on s'occupe de nos petits-enfants, on le fait à travers notre expérience, notre personnalité, et nous apportons nos codes, nos points de référence éducatifs qui peuvent être différents de ceux des parents, qui peuvent troubler, déséquilibrer l'enfant. Donc faut pas oublier qu'il peut y avoir des tensions. Hein. Donc il y a des équilibres à trouver pour l'enfant, pour le petit-enfant, entre nos repères, ceux des parents et le repère de l'enfant. Donc c'est assez complexe, il faut le reconnaître. Et des fois, quand on peut douter d'avoir bien fait, mal fait, d'avoir surtout mal fait, quand on le craint, on a un point de vérification qui peut être un encouragement aussi. C'est-à-dire, c'est le retour d'affection, ce que j'appelle le retour d'affection du petit enfant qui, dans sa tendresse, dans le partage de la tendresse avec nous, nous remercie, nous encourage, nous dit c'était bien, voilà. Donc ça déculpabilise beaucoup, ça met le cœur au large, voilà. Donc je suis très attentif à ce retour d'affection du petit enfant qui nous dit bah, ça se passe bien quand on vient à la maison, chez les grands-parents, voilà. Et c'est un bon encouragement.
Oui, c'est vrai. Qui peut oublier la présence et le témoignage de ses grands-parents ? C'est le pape Benoît XVI qui rappelait ça en 2008. Et de fait, les catéchumènes témoignent souvent de l'exemple laissé par leurs grands-parents. C'est souvent le souvenir d'une messe avec eux qui les a marqués. Pour vous, quel exemple de foi peuvent donner les grands-parents ? Père Michel ?
Alors moi, j'insiste beaucoup souvent sur le fait que c'est ce que l'on est qui diffuse par soi-même. C'est-à-dire que le témoignage, c'est pas faire d'abord du catéchisme et faire de la conviction, etc. Parce que si on est sur ce plan des idées, eh ben on va avoir les confrontations classiques comme on les voit sur tous les plateaux de télévision. Alors que l'être et la relation, c'est être avec l'autre. Et justement, toute la part de l'amour, de l'affection, toutes ces valeurs qui sont très familiales, elles changent le rapport, justement. Et c'est pour ça que ça passe mieux avec des grands-parents, parce qu'on est plutôt plus disposé à ça. À d'abord aller rejoindre dans de la tendresse, de l'affection, ça s'appelle l'amour d'affection, ça. C'est très fort. Et ensuite, c'est parce que c'est ce que l'on est qui transparaît. C'est-à-dire, c'est pas ce que l'on dit que l'enfant retient, il remarque qu'on vit telle chose, on bénit le repas, par exemple, à table. Des petites choses comme ça, au plan de la foi, ça fait un travail bien plus fort que d'avoir à faire du catéchisme pendant des heures, voilà. La prière, c'est très important. Quand un petit enfant sait que ses parents prient, que c'est tous les jours, et qu'en particulier, il prie pour lui, ça l'interroge profondément, ça. Et il nous voit faire, et souvent, c'est aussi par mimétisme, puisque l'éducation, même, on peut parler d'une part éducative qui ressort des grands-parents, l'éducation, c'est à 80%, c'est de l'imitation. Donc je crois que c'est quand on est soi-même, cohérent aussi avec ses valeurs, que ça se passe beaucoup mieux et que ça passe même au-delà de ce que l'on croit. Mmh. Au-delà de ce qu'on croit.
Jean-Claude Michel, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, je vais tout à fait dans le sens de Père Michel, hein, dans ce qu'il dit, que... je voulais donner un exemple pour illustrer justement ce que tu nous partages. C'est que le bénédicité à table est le minimum syndical, entre guillemets, hein, que nous imposons. C'est-à-dire, les petits-enfants, quand ils viennent à la maison, savent que le repas est béni. Hein. C'est donc l'occasion de se tourner en famille vers le Seigneur. C'est le temps de l'action de grâce. Bon. Alors au début, les premières fois, avec tous les petits-enfants, il y a la réaction de surprise, on ne comprend pas trop ce que c'est. Et le petit dernier de nos petits-enfants, qui a 5 ans maintenant, les grands-pères, ils ne savent jamais les âges des enfants.
Ah oui, ça c'est les grands-mères qui sont les championnes.
Hein. Et donc, il a observé pendant un temps, voilà. Et un jour... Il prend l'initiative de dire, mais bon papy, on va bénir la table. Et il prend la main de ses voisins. Et il nous a obligés tout à fait spontanément à nous prendre la main. C'est un geste qu'on ne fait pas à la maison. On en a d'autres. Mais c'était son geste.
Il avait vu faire peut-être ailleurs.
Peut-être, ça j'en sais rien. Oui, mais il n'a pas su nous le dire. C'était mais il a pris l'initiative. Donc c'était sa façon... d'exprimer sa reconnaissance, et puis je dis, c'est un geste de communion.
Ah oui, tout à fait. Hein? Mmh.
Donc voilà, ce que peut produire comment se fait une transmission à partir d'un bénédicité qui est une prière toute simple, mmh. et qui opère quelque chose dans le cœur de l'enfant, mmh. et qui est un signe fort.
Mais alors dans la famille, il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ont cessé toute pratique religieuse, il y a d'autres qui font un retour à la foi. Et c'est vrai que cette pratique du bénédicité, si on ne parle que de celle-là, peut aussi crisper. Comment faut-il faire pour garder une certaine unité, une certaine paix aussi dans la vie familiale ?
Alors ça relève justement d'avoir un bon dialogue avec les parents là-dessus, surtout si on sent qu'il va y avoir des difficultés, parce qu'aujourd'hui les parents sont plus volontiers ouverts, quoi. Sinon pas eux-mêmes la foi. Aujourd'hui, hein, les jeunes parents sont pas du tout, sont peut-être moins anticléricaux, on va dire, qu'à une certaine époque. Mais que ça existe encore. Il y en a qui ne tiennent pas du tout à ce que leurs enfants leur parlent de la foi, de l'Église et tout ça, en leur disant, surtout, vous leur dites rien. Bon. Alors c'est donc, il y a ce respect, effectivement, à avoir des parents. Mais il faut aussi pouvoir dire aux parents, et ça, c'est pas devant les petits-enfants qu'il faut le faire, leur dire, ben voilà, nous, ce que l'on est, on reçoit nos petits-enfants, on est chez nous. Et chez nous, on ne peut pas nous imposer des façons de faire qui ne sont pas notre façon habituelle de vivre. Donc, il faut arriver à convaincre. Oui, il ne faut pas se renier. Et ça, c'est au plan humain. On ne peut pas demander à quelqu'un, à un moment donné, de cacher ce qu'il est. Et je crois qu'il faut obtenir, en tout cas, même si on peut modérer ça fortement, il faut obtenir de pouvoir être au moins soi-même. Que les petits-enfants sachent qu'on va, par exemple, à la messe le dimanche. Voilà. Et ben, on ne vous oblige pas à y aller, parce que vos parents ne veulent pas, peut-être, mais nous, nous y allons, il faut qu'ils le sachent. Et on ne peut pas être caché, autrement dit. Voilà, on ne peut pas être caché. Maintenant, il faut bien sûr tenir compte de ces différences qui peuvent être quelquefois très conflictuelles même. Voilà, alors heureusement, ce n'est pas trop courant, parce que finalement, souvent, les parents acceptent, puisque ce n'est pas très courant, non, ben, pour eux, que c'est effectivement les petits-enfants peuvent faire aussi la prière avec les grands-parents, on fait la crèche et toutes ces choses-là. Hein. Encore des signes comme ça qui sont importants.
Martine, vous voulez ajouter quelque chose sur ces différences, peut-être, ces différentes approches et ces différences de religion dans la famille ?
Oui, il faut dialoguer, bien sûr. Il faut sentir les choses aussi, avoir des initiatives qui peuvent heurter, mais je suis d'accord avec ce que disait Michel, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont quand même très ouverts, je trouve, très respectueux. Et puis, si on a un bon lien avec nos enfants, nos petits-enfants, et puis les belles-filles, en tout cas, nous, ce sont des belles-filles, je crois que les choses se diffusent. Il y a une diffusion un peu de ce qu'on est, sans parole, mais par la façon d'être. Je crois beaucoup à cette diffusion, cette une espèce d'osmose qui se fait, qu'on a pu vivre aussi par moments avec des événements familiaux où tout d'un coup, on sent qu'il y a un moment de grâce, je dirais.
Une communion.
Une communion sans parole, je veux dire, sans qu'on en parle, sans qu'on l'ait prévu. Et je pense que ce qui est important, c'est ça nous renvoie à notre lien personnel avec Dieu. Si ce lien, si on le cultive, s'il est fort, il apparaîtra même sans parole, sans quelque chose se passera. Enfin, j'y tout crois beaucoup.
Voilà. C'est ce que dit aussi le père Yannick Bonnet, pardon, qui est mort aujourd'hui, mais qui est prêtre et qui a été aussi, oui, comme vous, père et grand-père. Il dit « La prière est la seule façon de pouvoir construire une famille unie dans l'épreuve comme dans la joie.
» C'est ce que disait Mère Teresa. Une famille unie, c'est une famille qui prie.
Oui, oui. C'est ça. C'est ça. Alors, il y a aussi, avec les différentes façons de vivre sa foi, il y a aussi des choix de vie qui peuvent être différents. Vous l'avez vu au début de cette émission, Père Michel Martin Prével. Alors, il y a certains qui se marient, d'autres qui ne se marient pas. Quelle attitude les grands-parents peuvent-ils adopter pour accueillir sans pour autant renier les principes de leur foi ?
Alors ça aussi, c'est très mesuré.
Délicat.
Ça, hein, on dit qu'il faut trouver le... Je crois que là aussi, il faut être à la fois dans de l'audace, c'est-à-dire dire ce que l'on sait, ce que l'on croit. On a des points de vue sur l'avortement, l'euthanasie, toutes ces questions-là. Et on a des beaux enfants qui n'ont peut-être pas les mêmes. Bon. Donc il faut être dans l'audace et dire ce que l'on pense. Ce n'est pas pour tuer l'autre, c'est simplement parce qu'il faut qu'il sache sur quoi se fonde notre vie. Et avoir à justifier aussi de ça. Hein. Il ne faut pas rougir de sa foi, comme dit l'épître de Saint-Pierre. Mais en même temps, on ne peut pas imposer un point de vue, on ne peut surtout pas imposer, ce n'est pas le lieu familial qui est le lieu pour être un lieu forcément de conversion directe au sens où il faut que tu crois ça, etc. Il y a les pater familias quelquefois qui ont imposé comme ça des opinions et ça, ce n'est pas tolérable. Donc il faut effectivement à la fois respecter la personne, mais dans la rencontre, même si elle est familiale, il faut toujours rester soi-même, il faut pouvoir aussi défendre ses convictions. Donc il faut être dans le respect et l'audace, et c'est les deux à la fois.
Et l'accueil passe aussi par l'exemple vis-à-vis des autres petits-enfants. Si on accueille un petit enfant ou un enfant qui est en couple avec une personne de même sexe, quelle est la juste mesure, la juste posture pour être dans cet accueil et à côté de ça, avoir cette notion d'exemple vis-à-vis des autres enfants?
C'est très difficile, je trouve que c'est difficile de répondre, mais enfin, on a quand même quelques repères qui ont déjà été énoncés. Oui. Je crois que un des premiers, c'est d'être à l'écoute les uns des autres et accueillir la différence, c'est être à l'écoute et se respecter. Pour moi, c'est essentiel, c'est-à-dire que rien ne s'impose, même s'il y a une exigence qui est liée au témoignage de la foi. Mais ce témoignage-là, il doit transparaître de ce que nous sommes, des choix que nous portons, qui sont visibles. Voilà. Et donc, c'est une façon de rester ce respect, de dialoguer dans la paix, dans le respect mutuel, même en abordant ou en n'abordant pas, parfois, s'il faut aller peut-être jusque-là, en n'abordant pas des sujets, les sujets qui fâchent. Donc, c'est une affaire de discernement. C'est une affaire de regard sur l'autre, qui doit être pris comme il est, mais en même temps on doit pouvoir dire sans brutalité, sans violence, nos différences, affirmer nos différences. Voilà. Donc quand on pose le choix d'aller à la messe et que les autres ne veulent pas, ben ils viennent pas, mais nous on y va, on reste ce que l'on est, on marche à notre rythme, hein, au rythme de notre foi et de nos convictions.
Et même inciter, hein, pour reprendre cette idée de la messe, on peut dire à ses petits-enfants, mais viens voir, si tu ne viens pas d'habitude, viens voir. Ça nous ferait plaisir à nous que tu nous accompagnes. Et puis tu sais, le Seigneur serait peut-être aussi très content. Voilà. Donc ce n'est pas du tout une obligation, bien sûr, mais il faut aller plus que respecter. Souvent, c'est aussi inciter.
Mmh. Est-ce que les grands-parents ont aussi un témoignage à donner de la miséricorde? Et de quelle manière?
Bien sûr, je crois que... Il faut savoir demander pardon à nos petits-enfants si on se rend compte qu'à un moment, une correction a été un peu excessive. Voilà. Ou en tout cas, si, c'est peut-être pas l'exprimer dans un discours, mais en tout cas par le geste. Il faut trouver le moyen de montrer que le pardon est possible, circule, et ce qui est l'expression d'un amour mutuel.
Moi, je crois que... l'amour dont on aime nos enfants devrait être un amour inconditionnel. Donc, nos enfants restent toujours nos enfants. Et ce qui est important, c'est qu'ils soient en chemin. Donc, il faut les prendre là où ils sont et puis cheminer pas à pas avec eux. Mais en sachant que cet amour, on ne leur retirera jamais. Dieu ne retire jamais son amour. Il vient toujours nous chercher. Et pour des parents ou des grands-parents, c'est la même chose. Ça devrait être la même chose. Bon, on réussit plus ou moins. Mais en tout cas, ça doit être un objectif, quoi.
Et il y a aussi cette question de l'espérance. Comment la garder quand les enfants ne croient pas ou ont laissé tomber la foi? Il y a ce regard d'amour inconditionnel, mais il y a aussi ce besoin de garder l'espérance et d'en être témoin.
Moi, ça me fait penser à l'attitude, au choix d'un de nos enfants. À travers notre appartenance à la communauté, ils perçoivent très bien que nous avons conçu, comme parents, comme étant leurs parents, un don de nous-mêmes au Seigneur. C'est le sens de notre appartenance. Et ça, ça suscite un respect de leur part extrêmement fort. Ils ne feront pas le choix de vie que nous avons fait, parce que c'est aussi une question d'appel de Dieu. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Mais ils pèsent, ils mesurent ce que représente pour nous ce choix de vie. Hein. Donc ça, je crois que c'est très important aussi. C'est que ce respect, on doit un respect aux enfants, à leur choix éducatif, etc. Mais on se rend compte qu'en retour aussi, ils nous le rendent, ce respect-là. Mm-hmm. Donc ça, pour moi, c'est très important. Y a des choses qu'ils comprennent bien et c'est... Même s'ils ne sont pas d'accord, ils respectent ce que l'on est, ils ne nous le reprochent pas.
Père Michel, sur cette question de l'espérance.
C'est la notion de modèle. Hein, qu'aujourd'hui, on a du mal avec les modèles parce qu'on pense que le modèle, ça veut dire qu'on impose.
Ça enferme.
En fait, c'est on montre, ce n'est pas pareil. Et je pense qu'on n'est pas un modèle parce qu'on est un héros, Il y a peut-être des gens qui disent ben, nous, c'était dans une époque autrefois, c'était beaucoup mieux, etc. Et vous, vous êtes dans un monde perdu. Alors ça, c'est terrible pour l'espérance, parce que dire que le monde qui vient, c'est un monde perdu, il n'y avait que le monde d'avant qui était bien, ça, c'est très, très négatif. Et puis, ce n'est pas la réalité, parce que nous, on ne peut pas être fiers non plus de notre passé. On a fait des choses terribles dans les sociétés passées. Donc, la question de l'espérance, c'est de dire qu'on n'est pas des héros. Mais voilà comment on engage un certain courage. On a engagé notre vie sur des. C'est-à-dire, c'est en faisant un monde que l'on prépare qu'il va pouvoir venir. Et c'est simplement ça qu'il faut qu'ils découvrent chez des grands-parents qui effectivement ont pu prendre des engagements, non pas parce que c'était des héros et qui même ils restent faillibles. Et c'est pour ça qu'il faut être dans la miséricorde et demander pardon pour ce qu'on a mal fait. Mais il faut aussi insister sur ce sur quoi on a bâti notre vie. Ça veut dire respecter les gens, ça veut dire être justement dans le pardon, ça veut dire aussi avoir le courage de prendre certaines décisions, le rapport à l'argent, le rapport à beaucoup de choses. Il faut que ça, on puisse le dire à ceux qui nous suivent, parce que de fait, ils en ont besoin, et c'est ça, être un modèle, c'est pas autre chose.
Voilà, je voudrais qu'on termine cette émission par ces mots du pape François. Les grands-parents qui ont nourri notre vie ont aujourd'hui faim de nous, de notre attention, de notre tendresse, de nous sentir proches. Levons les yeux vers eux comme Jésus le fait avec nous. Merci beaucoup, Père Michel Martin Prével, Jean-Claude et Martine Michel. Vous pourrez écouter cette émission ce soir à 21h et puis évidemment la retrouver sur le site de radioprésence.com et la télécharger, la diffuser à vos réseaux. Merci beaucoup.
Merci à vous.